là, mais... Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzoff. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Quelques jours après votre retour de Paris, où vous avez participé à la mission transpartisane, nous allons bien sûr revenir sur les résultats de cette mission. Mais vous avez jeté un pavé dans la mare après la rencontre avec le président de la République. Vous avez annoncé que le chef de l'État a clairement fermé la porte aux investisseurs de l'Empire du Milieu et qu'il défend le positionnement des Indiens et des Émiratis. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. D'abord, est-ce que vous comprenez la position du chef de l'État? Ça concerne notamment la reprise de nos usines de nickel.
Mais moi, j'ai rien jeté du tout dans la mare. On m'a demandé comment s'était passé le rendez-vous avec Emmanuel Macron. Et comme les trois quarts du temps, ça a été sur la question du nickel et la question chinoise, je n'allais pas mentir en disant qu'on avait parlé d'autre chose. Moi, je comprends la position du chef de l'État qui est de dire il faut se méfier des investissements chinois en Nouvelle-Calédonie parce que ça commence par des investissements économiques dans le secteur du nickel. Ensuite, ça sera le tourisme. Et puis après, on aura une influence certaine sur plusieurs acteurs. Et on voit bien comment les îles du Pacifique ont tourné, notamment les Salomon, notamment le Vanuatu, etc. Donc il faut se méfier des Chinois, ce sont des impérialistes. Donc je considère qu'il faut être très précautionneux avec l'Empire du Milieu. Simplement, moi, ce que je regrette de la part du président de la République, c'est que, très bien, pas de Chinois, mais il n'y a aucune alternative qui vient de France, d'Europe et même du monde occidental, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, enfin les pays démocratiques et développés. C'est-à-dire que le président de la République, il nous laisse quand même en rase campagne, il dit bah, pas les Chinois, par contre les Émiratis et les Indiens. Pour moi, ça reste des pays, des BRICS, hein, des nouvelles forces, des nouvelles forces émergentes dans le monde, qui n'ont pas la démocratie comme forcément leur fonctionnement principal, comme étant une des valeurs fondatrices de leur société. Moi, ça me pose un problème. Moi, je suis un démocrate, je défends les valeurs de liberté, d'égalité, de démocratie, comme je le dis, comme le porte l'Occident depuis maintenant plusieurs siècles. Donc, ça me dérange. Et je considère que le président de la République, sur ce sujet, nous utilise comme un retour de coutume, c'est-à-dire comme les Émirats Arabes Unis, vous savez qu'ils ont procédé à la plus grande commande de rafales de l'histoire de la France, et les Indiens achètent donc nos rafales, le président de la République s'est dit « bon, bah, je vais renvoyer l'appareil en leur filant le nickel calédonien ». Mais dénué de toute ambition politique, géopolitique, économique et industrielle pour la France en Nouvelle-Calédonie avec le nickel, et finalement, moi, c'est quelque chose qui ne me va pas.
Mais d'un autre côté, vous le savez, la France est complètement désindustrialisée aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste? Il y a l'Europe, éventuellement, qui pourrait avoir des capacités d'investir en Nouvelle-Calédonie.
Oui, mais enfin, pardon, mais moi, je peux pas... Je suis député de la République, hein, c'est le député de la nation. C'est un député français qui s'exprime. Moi, je ne peux pas entendre dire, bah, je suis désolé, en fait, on ne peut pas investir chez vous parce qu'on n'a plus d'entreprise. Enfin, pardon, moi, j'ai quand même une ambition pour mon pays, pour ma nation. La France, elle s'est construite au fil des siècles en étant ambitieuse, en étant créatrice. Hein, on disait toujours, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ben là, on n'a même plus d'idées. C'est-à-dire qu'on a, on a quasiment un quart des ressources mondiales de nickel. L'Europe, en plus, définit le nickel comme un minerai rare et stratégique pour la souveraineté industrielle de l'Europe. On n'est pas, pardon, j'ai utilisé un mot grossier, foutu hein, d'avoir ne serait-ce qu'un début de stratégie sur le sujet. Enfin, je peux quand même le regretter.
Et il vous a entendu quand vous avez dit ça ou ça l'a
Il s'est vexé, le président de la République. Bah, oui, forcément, ça s'est mal passé. Pour rien vous cacher, il a quand même été un peu dur. Il a dit, on n'a plus les moyens de nos ambitions, en parlant de la France et de l'Europe. On n'est pas compétitif, il faut l'accepter. C'est tout à fait l'axe indo-pacifique de travailler avec les Indiens et les Émiratis. Bon, je ne savais pas que les Émirats Arabes Unis étaient dans l'indo-pacifique, je le découvre, il a refait un peu de géographie. Et ensuite, les Indiens, très bien, mais moi, je n'avais pas compris le discours du Théâtre de Lille de 2018 comme étant, en fait, on cède nos territoires à nos alliés de l'indo-pacifique. Moi, la stratégie indo-pacifique, pour moi, qui a été le sujet du discours du Théâtre de Lille, justement, c'était de dire la France revient en force dans la région. C'est-à-dire la France a des territoires, la Réunion, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à la Polynésie française, dans ces deux grands océans indiens et pacifiques. Et donc nous, on va revenir se servir de ces porte-avions pour finalement être une force régionale. Mais en fait, je découvre que cette ambition d'être une force régionale se transforme en... Eh ben, on laisse finalement ces porte-avions à nos alliés régionaux. Ben, moi, ça ne me va pas.
D'un autre côté, quand le président de la République dit ça, est-ce qu'on peut se passer des Chinois? Alors qu'ils sont partout parmi les repreneurs dans le domaine industriel, dans le nickel.
Non, mais c'est là où, après, moi, je suis rattrapé par un principe de réalité. Moi, je peux regretter. C'est le député français qui s'exprime. Hein. Je regrette l'absence de stratégie industrielle de la France et de l'Europe. On a quand même des grands groupes qui ont besoin de nickel, notamment pour les voitures électriques. Hein. Je pense à PRNC qui fournit du nickel pour les voitures électriques. PSA, c'est un groupe international. Renault, c'est un groupe international. On a Total qui s'est mis dans l'énergie solaire aussi, qui peut créer de nouvelles filiales. Eramet, bon, ben, on peut peut-être redimensionner et redonner une forme d'ambition, surtout que la famille Duval est vendeuse, pour redonner de nouveaux actionnaires à Eramet avec peut-être un peu plus d'ambition pour les territoires français. Enfin, je veux dire, on peut faire des choses. Et donc, moi, je regrette ça, ce manque d'ambition, ce manque de vision à long terme, ce manque de stratégie. Mais une fois que j'ai dit ça, Elisabeth Noir, l'élu calédonien, le député, cette fois de la première circo, l'élu du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de la province sud, je ne vais pas dire aux familles qui travaillent à Progny Ressources, je ne vais pas dire aux familles qui travaillent à Dunyombo, je ne vais même pas dire aux familles de KNS, ben vous savez quoi, on va attendre que l'Europe et la France se réveillent. Je ne peux pas me permettre de dire ça, parce que les gens, il faut qu'ils travaillent. La Calédonie a besoin de créer de la richesse, nos familles, elles ont besoin de travailler, elles ont besoin de nourrir leurs enfants. Donc si à un moment donné, il y a une absence totale en fait, d'ambition occidentale sur notre nickel, eh ben on va devoir se résoudre, oui, à travailler avec les pays des BRICS. Et vous savez quoi ? Mais ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal de le dire, mais on va pas se faire harakiri à cause d'un manque d'ambition français.
Stéphane Séjourné, le commissaire européen, doit venir prochainement en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pensez que l'Europe, ça peut être une possibilité si la France ne peut pas ?
Vous allez l'accueillir très certainement à RRB. Il va se précipiter à RRB comme toutes les visites officielles. Mais il faut lui poser la question. On va dire, mais monsieur Séjourné, vous venez... Parce qu'il va nous expliquer, hein, Stéphane Séjourné, que attention, l'Europe, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie, le minerai du nickel, c'est stratégique pour l'Europe, etc. Mais il faudra lui poser la question, pourquoi vous n'êtes pas venu investir ? Vous êtes où, en fait ? Vous vous servez à quoi, monsieur Séjourné ?
On lui posera la question, peut-être pas comme ça, mais on lui posera. En attendant, est-ce que ça vous inquiète ? On apprenait ce matin le retrait de NBM, qui était le repreneur pour PRNC, c'était... presque fait, ça fait 2 ans qu'on était dessus. Ils annoncent qu'ils veulent pas venir, enfin, qu'ils hésitent à venir en raison de l'augmentation du prix du soufre et puis en raison aussi du problème de leur lien avec la Chine. C'est inquiétant ?
Ben oui, c'est inquiétant, mais le problème des Chinois, il date pas du discours de Macron, parce que en fait, moi, je l'ai rendu public, cette problématique-là. Mais ça fait un moment, nous, qu'on le sait, parce que NBM, le repreneur de l'usine du Sud, n'a pas d'actionnaire chinois. Par contre, il voulait utiliser 200 travailleurs chinois qui ont des compétences précises, techniques, qu'on n'a pas pour redémarrer l'usine. En tout cas, pour l'améliorer et optimiser son fonctionnement. Et Emmanuel Macron a bloqué l'arrivée de ces 200 travailleurs chinois parce qu'il considère qu'ils ne sont pas tous des spécialistes du nickel. Et qu'il y a peut-être dans les 200 Chinois, une vingtaine de Chinois qui font autre chose que de l'industrie du nickel et qui pourraient être des agents de l'État chinois. Je peux l'entendre, mais c'est toujours mon problème. On ne peut pas bloquer et pas proposer d'alternative. C'est ça qui me gêne dans le débat actuel. Moi, je veux qu'on empêche effectivement les BRICS de mettre la main sur la Nouvelle-Calédonie comme ils l'ont fait sur le Vanuatu, comme sur les Salomon et comme ils le font dans la région Pacifique. On a très bien vu les dégâts qu'ils ont causés au Forum des îles du Pacifique où on n'arrive même plus à condamner le tir d'un missile balistique.
Bon, mais ils l'ont condamné finalement.
Ils l'ont finalement condamné, mais au bout de plusieurs jours de débat, houleux, alors que ça aurait dû faire l'unanimité tout de suite. Bon, tout ça pour dire que moi, je suis effectivement contre l'arrivée des BRICS en Nouvelle-Calédonie, mais par contre, il faut proposer une alternative. Et si on n'a pas d'alternative, il ne faudra pas venir nous donner la leçon plus tard. C'est-à-dire que moi, une fois que les Chinois sont arrivés dans le sud, dans le nord, les Indiens à Dunyombo ou les Émiratis, moi je ne veux pas entendre la France et l'Europe venir nous dire attention, c'est pas normal, c'est de l'ingérence, parce qu'en fait, ils vont nous laisser mourir tout seuls. C'est-à-dire qu'on va bloquer les 200 travailleurs chinois, on va bloquer l'actionnariat chinois dans le Nord, et nous on fait quoi ? On meurt. Et après, ils vont nous reprocher d'aller quémander des sous tous les ans dans une mission transpartisane en disant, dis donc, l'État, il est généreux. Bah oui, mes camarades, si tu nous avais laissé reprendre nos usines, tu aurais moins d'argent à donner pour subventionner nos politiques publiques, parce qu'en fait, on aurait créé de la richesse localement.
Justement, on en vient à cette mission transpartisane. Vous étiez parti quémander, ou en tout cas chercher de l'argent, pour finir l'année, pour commencer 2027. Globalement, on ne va pas revenir sur le détail de tout ce qui a été décidé, mais globalement, ça correspond à ce que vous vouliez, ou c'est pas encore... Ou tout n'est pas bon ?
C'est bien. Globalement, c'est bien. Après, il y a toujours... On peut toujours avoir quelques dizaines de millions d'euros qui traînent par-ci, par-là, dont on est très preneur. Mais globalement, c'est très positif. Enfin, vous vous rendez compte. Là, pour le coup, moi qui suis quand même très critique envers la Macronie de ces dernières années, Sébastien Lecornu a fait le taf sur le sujet financier. 60 millions d'euros, donc un peu plus de 7 milliards pour finir l'année et commencer 2027. Une cinquantaine de milliards de francs pacifiques pour l'année 2027, pour le coup, la totalité de l'année 2027. C'est nos besoins, grosso modo, moyennant quelques réformes, quelques réductions de dépenses, mais ça passe avec ces crédits-là. Une grosse partie de ces sommes seront en subvention et non plus en prêt. Non, c'est vraiment une réussite politique de cette mission transpartisane. Ça veut dire que quand on parle d'une même voix, quand on essaye de travailler ensemble, ça fonctionne. Voilà. Et donc, moi, je suis très content de voir que notre stratégie, parce qu'il faut quand même le dire, la stratégie des loyalistes et du rassemblement, d'avoir proposé à l'éveil océanien de faire un bloc majoritaire, de mettre Milakoulo Tukumli, président du gouvernement, parce que ça, c'est notre décision quand même, a fonctionné. Et fonctionne. Donc, la stratégie loyaliste issue des élections fonctionne. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour moi et pour Sonia Backès, pour Gilles Brial, pour Alcide Pong.
L'ambiance était vraiment bonne entre vous, je veux dire, entre du rassemblement à l'UNI en passant par les loyalistes, le rassemblement océanien.
Déjà, on peut dire le bloc majoritaire du rassemblement des loyalistes et de l'éveil océanien, très bonne ambiance. Aussi une forme de nouvelle génération, hein. C'est vrai que, bon, Milakoulou Tukumli, il a à peu près mon âge, à peu près l'âge de Sonia Backès, enfin, il est entre les deux, enfin... Ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais il y a une forme de compréhension quand il y a une solidarité intergénérationnelle comme ça, enfin intragénérationnelle, pardon. C'est vrai que c'est plus facile. On a les mêmes codes, les mêmes façons de procéder, donc ça va plus vite. Et j'ai été agréablement surpris, pour rien vous cacher, aussi du comportement de Emmanuel Tchibaou.
Ouais. Alors le FLNKS n'était pas là, Emmanuel Tchibaou était là. Est-ce que ça crée une ambiguïté? Est-ce qu'on a considéré quand même qu'il représentait le FLNKS, même s'il n'était pas sous cette casquette-là, ou il non, était mais, en tant que député?
Moi, je ne vais pas vous faire de la langue de bois, vous me connaissez. Moi, je pense qu'il y a une guerre de leadership entre Emmanuel Tchibaou et Christian Théin dans le camp indépendantiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a deux leaders. Il y a Christian Théin, le révolutionnaire, et il y a Emmanuel Tchibaou, on va dire, le gestionnaire. On voit très bien que... même s'ils essayent de camoufler ça par des éléments de langage plutôt bien trouvés, Emmanuel Tchibaou a fait un doigt, comme on dit, à la décision du FLNKS de ne pas aller à Paris. En prenant sa casquette de député, parce que comme ça a gardé la forme cohérente, en disant bah, « j'y vais en tant que député ». Mais enfin, vous savez, moi, quand je suis député à l'Assemblée nationale, je ne suis pas que député, je suis aussi président de Génération NC et élu de la province sud et du Congrès. Donc, je crois qu'on assiste à travers cette mission transpartisane, c'est aussi la leçon politique que moi j'en tire, à une division de leaders chez les indépendantistes qu'il faut avoir en tête, oui.
Division de méthode, en tout cas, aussi, et ça, on le voit depuis plusieurs mois. L'Assemblée nationale, vous en parliez, ces aides, et notamment l'engagement de la cinquantaine de milliards, ça doit passer par l'étape parlementaire. Alors, il y a un projet de loi de finances de fin de gestion pour la première aide, et puis il y a le projet de loi de finances 2027 de l'État. On sait que le Premier ministre a des difficultés à boucler son budget et qu'il n'est pas sûr de le faire adopter. Comment vous voyez les choses et quel va être votre travail maintenant pour passer cette étape?
Non, merci de le rappeler, c'est important parce que c'est comme pour Bougival. En fait, c'est vrai, il y a les annonces du gouvernement. Il y a la volonté du gouvernement, donc 60 millions d'euros pour finir l'année et 460 millions d'euros pour 2027. Et puis, il y a le choix du Parlement. Tout revient au Parlement à chaque fois. C'est désolé, les députés sont embêtants. Mais si, en fait, le gouvernement annonce quelque chose et qui est rejeté par le Parlement, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, il y a deux textes. On peut dire que le PLFG que vous avez cité, c'est le budget supplémentaire. C'est là où on va inscrire les 60 millions d'euros pour 2026. Et il y a le PLF qui est, lui, le budget 2027 de l'État, de la France, donc, où on va inscrire les 460 millions d'euros. Ces deux textes doivent être adoptés par l'Assemblée nationale, sinon il n'y a pas de budget. Je n'ai pas d'alerte particulière sur le budget supplémentaire, le PLFG 2026. Parce que dedans, il y a aussi les aides pour les agriculteurs qui sont en grande souffrance en métropole, et on sait que ça fait l'unanimité. Donc on voit qu'à l'Assemblée nationale, tous les groupes de l'Assemblée ont d'ailleurs signé le soutien à la Nouvelle-Calédonie, et le soutien aux agriculteurs aussi fait l'unanimité. Donc c'est deux sujets, Nouvelle-Calédonie et agriculture, qui seront dans le BS 2026 de l'État. Donc ça, ça devrait quand même obtenir une majorité au Parlement. Là où c'est un peu plus rock'n'roll, c'est le budget 2027 de la France. Parce qu'on est à la veille des élections présidentielles et les groupes du Parlement vont vouloir faire la peau de Sébastien Lecornu, pour des raisons politiciennes. Et donc, il est probable que Sébastien Lecornu se fasse censurer. Ça veut dire censurer, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on le force à quitter ses fonctions de Premier ministre. On censure le Premier ministre. Donc là, le temps de renommer un gouvernement, on fonctionne soit par 49-3, soit par ordonnance plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le projet du gouvernement qui est transmis comme étant le budget de la France. Et donc ça, c'est que à la main du gouvernement, c'est plus à la main du Parlement. Donc moi, j'ai plus de marge de manœuvre. Si des fois, les crédits qui sont inscrits ne correspondent pas aux annonces, je peux plus les modifier, par exemple. Et alors, il y a le scénario du pire, et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'on censure Sébastien Lecornu, Premier ministre, et là, pouf, dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République.
Ouais, c'est un scénario qu'on entend, effectivement.
Qui peut vouloir jouer avec ça jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en plus, s'il dissout l'Assemblée nationale maintenant, on ne peut plus la dissoudre pendant au moins un an. Il y a un an de gage de sécurité, de stabilité de l'Assemblée nationale. Et donc, ça voudrait dire que le prochain président de la République, élu donc en milieu d'année 2027, ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale pour retrouver une majorité. Donc c'est aussi pour ça que Emmanuel Macron dissoudrait l'Assemblée nationale. Et donc, j'en arrive à mon sujet calédonien. S'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, réélection législative, et donc on va certainement perdre des plumes en route en termes de dotation budgétaire, ne serait-ce qu'en, même si on a toute la somme, en termes de calendrier où on aurait les versements, c'est-à-dire que bon, on aurait la somme qui serait inscrite au budget de l'État, mais on la toucherait en mars, avril, mai. Donc là, ça serait difficile pour nos comptes.
Est-ce que le scénario optimal est quand même possible ? Rassurez-nous. Est-ce qu'on peut envisager que Sébastien Lecornu arrive à passer son budget comme il l'a fait l'an dernier ?
C'est que des scénarios, là. Je vous ai fait des hypothèses. Hein. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer.
Mais l'hypothèse haute, elle est possible quand même ?
Alors, c'est toujours difficile de faire Madame Irma et de sortir la boule de cristal, mais j'ai l'impression qu'on va... Je ne vois pas comment Sébastien Lecornu échappe cette fois à la censure, mais je ne sais pas si le président de la République va dissoudre. Je pense qu'il va renommer tout de suite le gouvernement Lecornu, moyennant quelques modifications, pour qu'on finisse le travail jusqu'à la fin de l'année. Le président de la République serait vraiment fou de dissoudre l'Assemblée nationale. Les raisons politiciennes, on les comprend, mais pour la stabilité de la France, pour aussi l'image de son fin de mandat, enfin, ça serait ridicule.
Et ça ne lui est pas réussi la première fois quand même.
Ça, je vous le confirme.
Vous parliez de cette lettre écrite par tous les groupes de l'Assemblée nationale. Vous avez été surpris qu'il y ait cette unanimité du RN à LFI ? C'est quand même surprenant, vous qui les fréquentez régulièrement.
Non, je n'ai pas été surpris. Non, parce qu'ils se sont toujours lavé les mains sur la question budgétaire. C'est-à-dire que comme ils nous sagaillent sur la question institutionnelle, quand même depuis 3 ans maintenant, où ils empêchent les accords d'être votés, Bougival, Élisée Oudinot, le dégel à 10 ans, l'inscription des conjoints, c'est l'Assemblée nationale qui a fait échouer tout ça. Et donc, ils se sont toujours rachetés, on va dire, se sont toujours donné bonne conscience sur les questions budgétaires en disant la question institutionnelle, on n'est pas d'accord, soit c'est pas assez français, soit c'est trop français, etc. Mais du coup, on est tous pour qu'en attendant, on leur donne un maximum d'argent. Et eux, ça leur coûte pas cher de dire ça, ils sont pas en responsabilité. Un député, il gère pas le budget de l'État, enfin, quand il est pas dans la majorité. Et donc, c'est plus facile pour les oppositions de se mettre d'accord en disant on va donner des milliards à la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour le coup, nous, ça nous arrange. Hein, on est très contents de la situation. Mais moi, je n'ai pas été surpris parce que c'est des discours qui ont toujours été tenus dans l'hémicycle de la part du RN et de la France Insoumise qui étaient de dire il faut donner de l'argent.
Voir votre ami Bastien Lachaud signer cette lettre, vous avez trouvé ça normal ?
Ah, mais c'était un plaisir non dissimulé pour moi d'associer mon nom à celui de Bastien Lachaud sur cette feuille Elisabeth Nord, vraiment un grand moment de ma vie politique.
Alors, il y a un consensus également, et là, transpartisan, sur le refus de rouvrir les discussions sur l'avenir institutionnel. Alors, à la limite, on a l'impression que ça arrange tout le monde. Ça arrange la classe politique métropolitaine, ça arrange aussi la mission transpartisane. On ne parle pas de ce qui fâche.
Ça arrange tout le monde, sauf Emmanuel Macron, qui nous en veut beaucoup de ne pas finir sur la question institutionnelle. Nous, on avait été très clair sur le sujet, on s'est répété 20 fois là-dessus. On ne veut pas renégocier avec une assemblée comme ça. Il n'y a pas de majorité. Donc si c'est pour trouver un accord, faire croire aux Calédoniens que c'est bon, on a trouvé la solution, et en fait se faire shooter par les députés d'opposition, et du coup avoir suscité du désespoir plutôt que de l'espoir, non merci. Hein, on est quand même en train de stabiliser les choses. L'hémorragie est stoppée. Je ne dis pas que la Calédonie repart du bon pied, mais en tout cas, on a arrêté de descendre. Si c'est pour encore faire espérer aux Calédoniens et les décevoir, ce qui va plomber la confiance, l'économie, l'investissement et la consommation, c'est sans nous. Donc le président de la République a voulu, pour rien vous cacher, tout au long de la semaine, avant la clôture à l'Élysée, nous tordre un peu le bras sur la question institutionnelle en disant qu'il faut à tout prix en parler, il faut reprendre les discussions sur Bougival, il faut revoir ce qui peut être fait, etc. Et franchement, on l'a tous envoyé balader en disant mais enfin, toi, tu peux te faire plaisir si tu veux. Enfin, vous, monsieur le président, vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez. Mais si c'est pour nous prendre un râteau de l'Assemblée nationale, ça ne vaut pas le coup. On n'est pas venu là pour ça.
Ça veut dire qu'on attend le deuxième semestre 2027 au mieux, après la présidentielle, après les législatives éventuelles, pour se remettre aux ordres de la table.
Il faut discuter avec la nouvelle majorité, parce que quoi qu'il arrive, c'est plus la Macronie vraiment. Quand bien même ça serait les enfants de la Macronie, Édouard Philippe, etc., ça ne sera pas quand même la même vision des choses, la même orientation. Donc ça ne sert à rien qu'on commence quelque chose aujourd'hui, si en plus pour être balayé dès le nouveau président de la République. Donc je crois qu'il reste 7 mois, je crois, 7 mois, 6 mois. Enfin voilà, on va se concentrer sur la reconstruction économique et puis on va attendre la nouvelle majorité.
Alors dans le communiqué qui annonce l'aide financière, il y a quand même une petite phrase du Premier ministre qui évoque les avancées qui restent possibles dans le cadre de l'accord de Nouméa. Il écrit que toutes les difficultés du territoire ne peuvent pas attendre un nouvel accord global sans date fixée et il laisse entendre que s'il y a un ajustement qui fait consensus, qu'il est connu depuis longtemps, utile aux institutions, il doit être mis en place sans attendre. Ça veut dire quoi? Vous l'interprétez comment
cette... Ça c'est le lobbying d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le lobbying du président de la République auprès de Sébastien Lecornu pour qu'il y ait quand même une touche d'institutionnel. Donc, ils ont mis ceinture, bretelles, airbag, parachute, en disant qu'il fallait un consensus le plus large possible pour faire des ajustements si on était d'accord pour, je ne sais pas, moi, donner un peu plus de moyens aux communes ou voilà.
Modifier la loi organique.
Du toilettage de loi organique pour améliorer le fonctionnement de nos institutions sans attaquer les gros sujets, corps électoral, compétences régaliennes, etc. Faire du toilettage d'organisation institutionnelle locale. Bon, c'était pour faire plaisir au président, je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout.
Vous y êtes favorable ou non? Non, vous pensez que c'est
non,
pas le moment qu'il y a autre chose à faire?
Non, franchement, non.
Alors, vous avez passé 5 jours, je crois, cette finance transpartisane. Vous avez eu notamment un petit déjeuner avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Ah, ça, c'est que moi tout seul.
Non.
J'étais pas en mission transpartisane.
Oui, vous étiez tout
ah,
seul.
Oui, d'accord.
Vous avez pris un petit déjeuner avec Laurent Nunez.
Oui, d'accord.
Je suppose que chacun a eu des rendez-vous
droite
à gauche.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Comment c'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement? Plus d'effectifs ou en tout cas de maintenir des effectifs importants.
Vous savez, moi j'étais intervenu il y a 15 jours, 3 semaines. Enfin, je ne me rappelle plus exactement la date sur le départ des escadrons de gendarmes mobiles. Hein. Donc j'avais râlé, ils m'avaient répondu non, etc. Donc il faut toujours commencer par une bonne engueulade dans la vie parce qu'après on peut avoir des discussions sérieuses. Et donc je ne pense pas que j'aurais été invité au ministère de l'Intérieur si je n'avais pas râlé sur le départ des escadrons de gendarmes mobiles. Donc on a allé faire un point sur la présence des forces de l'ordre et deux, trois sujets qui concernent la police et la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Je vais le faire très vite, les trois points. Donc le premier point, c'est le nombre effectif de gendarmes en Nouvelle-Calédonie. En gros, le problème, c'est quoi? C'est qu'on dépend trop des mobiles. Il n'y a pas assez de gendarmes permanents, ce qu'on appelle des territoriaux, ceux qui sont en chemise bleue. Il n'y a pas assez de gendarmes dans nos brigades. Et donc, en fait, on est obligé d'avoir à chaque fois le renfort de mobile. Mais le renfort de mobile, un, il faut qu'il soit disponible. Parce que s'il y a le G7, les Jeux Olympiques, le Pape ou les trois en même temps, mon capitaine, la France mobilise l'ensemble de ses forces de l'ordre. Et donc, nous, on n'a plus rien. C'est ce qui s'est passé lors des émeutes. Et ça coûte cher à l'État, c'est-à-dire qu'il faut faire venir les mobiles.
Et puis, il y a un délai avant qu'ils soient là.
Voilà, il y a un délai, il faut, en 4 jours, en plus 4 jours, c'est largement insuffisant, mais à mon avis, c'est plus. Donc ensuite, il faut les loger dans des hôtels, enfin, il faut les occuper, donc tout ça coûte très cher. Donc moi, mon premier point était de dire, ok, je comprends que vous dites que vous avez besoin des mobiles pour la métropole, etc., ok, pas de problème, mais du coup, il faut augmenter le nombre de permanents en Nouvelle-Calédonie, de gendarmes territoriaux. Et ça, il a été ouvert à ça. Il a lancé un plan dans son administration qui s'appelle le plan 3000, c'est le renforcement de 3000 effectifs de gendarmes permanents dans les Outre-mer, et donc la Calédonie devrait en bénéficier d'une bonne part. Peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour l'année d'après certainement. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, je lui ai parlé de l'État, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, d'aller dans, voir nos gendarmeries, nos casernes de gendarmerie. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Kouaoua, ça s'effondre. Bouraï, elle est complètement délabrée. Même la caserne Pélissou, qui est au Mont-d'Orpoul, elle est insalubre, obsolète. Il y a de la moisissure partout. Les toits s'effondrent dans les appartements des gendarmes du GIGN. Enfin, on a quand même la formation d'élite, hein. On fait des séries Netflix sur eux, de la gendarmerie française, qui défendent la France, qui portent les couleurs, qui nous protègent, et on les met dans des conditions indignes. Donc moi j'ai dit que c'était pas... un peu de politique, mais on loge des immigrés dans des hôtels du 8e arrondissement à Paris, quand ici on laisse nos gendarmes dans des trucs pourris. Je ne peux pas accepter ça. Donc, en tant que député, là aussi, de la Nation, j'ai dit, moi, je voudrais qu'on augmente les crédits pour améliorer l'immobilier de nos gendarmes. Ça a été accepté, c'est une priorité du ministre. Donc, on aura des crédits pour refaire nos casernes l'année prochaine.
Ça fait aussi les chantiers de reconstruction pour la Calédonie.
Oui, oui. Puis en plus, ça nous fait du boulot pour le BTP. Enfin, ça ne va pas aller chercher loin, mais quand même. Et le troisième sujet, c'était le retour des policiers calédoniens. Vous savez, on a un problème chez nous maintenant qui est structurel, c'est nos gens aiment l'uniforme. On aime porter l'uniforme, on a un taux d'adhésion et de recrutement dans les compétences régaliennes, dans les services de l'État régalien, beaucoup plus élevé que les territoires métropolitains en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on produit trop de policiers nationaux par rapport à notre besoin ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des policiers nationaux calédoniens qui restent à Paris, qui restent bloqués partout sur le territoire national, parce qu'ici, il n'y a plus de place, tout simplement. C'est pris déjà par tous les Calédoniens. Et donc, l'idée, pour moi, c'était, en accord avec les maires d'Imbéa, Cynthia Jean et Nina Julie Mandor, de passer ces zones qui sont aujourd'hui en zone gendarmerie, en zone police, pour qu'on puisse faire revenir un maximum de Calédoniens. Et puis en plus, ça suit une règle qui est de dire que les zones police sont automatiques au-delà de 25 000 habitants. Voilà.
On a évoqué un moment, on a dit que la calédonisation de la police notamment portait un risque de politisation. Vous le craignez ou non ?
Mais moi, je pense qu'il faut... le problème, c'est toujours l'excès dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il faut avoir un bon rapport entre des policiers calédoniens et des agents et des policiers hexagonaux. Et ça ne sert à rien d'avoir 100% de calédoniens parce que après on peut tomber effectivement dans de la politisation à outrance de nos services avec les conséquences qu'on a vues pendant les émeutes et pendant la visite du président de la République. Et en même temps, quand on n'a pas assez de Calédoniens, bon, ben, on voit que le service sur le terrain, il n'est pas optimum, parce que faut connaître les gens, faut connaître les us et coutumes, faut connaître déjà les lieux. Hein. Des fois, on a des gendarmes qui mettent du temps à arriver, parce que bon, c'est où le col des citrons, ben, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, je pense que, en fait, c'est l'équilibre qui fait la réussite. Hein.
Et donc sur ces trois points, a priori, le ministre de l'Intérieur va vous donner cette satisfaction.
Il y a eu en tout cas des ouvertures positives, et donc c'est un petit déjeuner qui s'est très bien passé.
Bon, vous avez vu d'autres gens, j'imagine. Alors en métropole, l'actualité est déjà très, très occupée, très dominée par la préparation de la présidentielle. Il y a une multiplication des candidatures. Tous les jours, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il va être candidat. Qu'est-ce que vous pensez de ce paysage? Et est-ce que vous avez affiné votre soutien, votre engagement?
Ça commence à se resserrer, Elisabeth Noir. Ça commence à se resserrer. Non, mais moi, enfin... Il y a tellement de candidats aujourd'hui que je me dis, à droite en tout cas, hein, parce que bon, je suis un homme de droite, donc je parle des gens de droite, que je me dis, bon, il faut privilégier aujourd'hui ceux dont nous sommes le plus proches à la fois pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie. Je vais vous citer des noms. Sarah Knafo, évidemment, je ne vais pas dire pourquoi, mais...
Elle n'est pas encore candidate.
Elle n'est pas encore candidate, non, c'est vrai. Mais sur la Calédonie, elle est très claire. Elle est très libérale aussi d'un point de vue économique. Bruno Retailleau, chef DLR, qui a toujours été réglo sur la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, il continue de communiquer sur notre actualité. C'est un des seuls hein, qui s'exprime publiquement sur l'actualité calédonienne à ce niveau-là. À l'Assemblée nationale et au Sénat, le groupe LR a toujours été dans la droite ligne de la Calédonie française, donc ils sont irréprochables. Il y a évidemment aussi, moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, je peux peut-être le parrainer, c'est David Lisnard. David Lisnard qui est LR aussi, hein, qui est un concurrent en interne de Bruno Retailleau, mais qui est très libéral. Et puis je pense qu'il y a le projet le plus disruptif, en tout cas le projet qui ambitionne de plus changer la France et qui en aurait bien besoin. J'aime bien ce style. J'encourage les auditeurs qui ne connaissent pas David Lisnard à aller le suivre sur les réseaux, c'est vraiment intéressant. Et puis, et moi, je suis à chaque fois obligé de le citer parce que je suis quelqu'un de loyal, mais Gabriel Attal, qui, mine de rien, vous avez vu, il est attaqué par les indépendantistes aujourd'hui parce qu'il a pris des décisions très fermes pendant les émeutes. Il était Premier ministre. Et lui aussi, mine de rien, le groupe Renaissance, je ne parle pas d'Édouard Philippe, mais de Gabriel Attal, a toujours été réglo avec nous sur les questions de Calédonie française. Le problème de Gabriel Attal, et j'ai eu l'occasion de le lui dire, d'ailleurs, ça, pas forcément très plu, mais c'est comme ça, c'est que je pense qu'il finira par rejoindre Édouard Philippe. Et là, bon, bah, c'est pas forcément possible pour
Édouard Philippe, pour vous, c'est un barrage.
Ah non, c'est mort, c'est mort. Édouard Philippe, mais plus jamais. Je veux pas entendre parler d'Édouard Philippe. Ça a l'air un peu trivial comme réflexion, comme ça, mais alors, pas du tout. Pour la France d'ailleurs, d'abord, parce que en fait, Édouard Philippe, il a le même langage que Jacques Chirac. Je pense que c'est des gens qui gagnent à droite et qui gouvernent à gauche. Pour moi, ce ne sont pas des vrais gens de droite. Il y a trop de précautions dans les éléments de langage. On ne va jamais très loin dans les réformes. On est très précautionneux pour ne pas froisser l'aile gauche qui pourrait nous servir face à Marine Le Pen en cas de second tour. Et donc, Édouard Philippe, s'il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen, il le devra forcément à l'électorat de gauche. Et donc, ça s'en ressentira dans ses politiques publiques. Donc, moi, je ne veux pas ça. Déjà pour la France. Ensuite, pour la Nouvelle-Calédonie, moi, je considère que quelqu'un qui vote contre le droit de vote des conjoints en Nouvelle-Calédonie, en fait, n'est plus légitime à s'exprimer pour nous. Parce qu'on peut m'expliquer qu'il n'a pas bien compris, il n'a pas bien suivi, que c'était loin, qu'il était mal conseillé. Enfin, pardon, le droit de vote des Français dans un territoire français, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA X pour comprendre que c'est une base même du principe d'égalité républicaine. Donc voilà, moi, Édouard Philippe, c'est non.
Bien, on vous reparlera de la présidentielle. On va attendre de voir que tout ça s'éclaircisse et qui est vraiment candidat in fine. Sont les vacances parlementaires, là, pour l'instant, Nicolas Mézenf? Vous êtes en vacances?
Ouais, et puis alors c'est des vacances qui durent, ça commence à vraiment m'énerver. Pourquoi c'est dur? Alors il y a les vacances d'été classiques, juillet-août, mais en plus il y a le renouvellement du Sénat. Vous savez qu'il y a des élections sénatoriales.
On n'est pas concerné,
malheureusement, parce qu'on aurait pu changer nos sénateurs. Mais
qui n'était pas dans la mission parlementaire, si à la fin.
À la fin, on a eu un rattrapage dans le dernier virage, un coup d'accélération dans le dernier virage. Mais là. Donc, comme il y a des élections sénatoriales, le Parlement ne peut pas fonctionner, parce que vous savez qu'il y a un système de navette entre l'Assemblée sur les lois et le Sénat, et donc comme le Sénat est en renouvellement, on ne peut pas l'utiliser. Donc en fait, les vacances ont été prolongées d'un mois. Mon Dieu que c'est lent, je plains les gens qui vivent en vacances, c'est horrible, je range mon frein. Vous avez vu, je me positionne sur tous les sujets, j'essaie de bosser sur Arcalin, sur les retraites, sur la Chine. Je vais aux États-Unis la semaine prochaine, c'est une semaine de vacances, je vais aux États-Unis pour leur dire... Bon, les gars, les Chinois arrivent. J'étais venu il y a 2 ans vous dire, les Chinois vont finir par arriver. Je suis venu vous dire, ils sont là. Et on est quasiment même obligé de les défendre parce qu'en fait, on n'a rien d'autre. Donc, soit vous considérez que le Pacifique, c'est foutu et que, c'est foutu. Et puis, à ce moment-là, il faut pas râler sur l'influence chinoise dans la région. Soit vous considérez que c'est pas foutu et que peut-être, je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même 2-3 multinationales, si on n'en a pas en France ou en Europe, qui peuvent s'intéresser à notre minerai stratégique. Donc, voilà, mobilisez-vous.
Ça va. Vous vous occupez pendant vos vacances, au moins, c'est bon.
Eh oui, il faut bien.
Merci en tout cas d'être venu dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup.